Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu, c'est autre chose. C'est pour parler, certainement, c'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, mon invité est une avocate primo-romancière qui s'intéresse à un des faits divers français les plus célèbres du XXe siècle, l'affaire des sœurs Papin. Visite de bibliothèque toujours, celle de Dominique A. aujourd'hui, carrément, et à la fin de l'émission. Je réunis tout le monde, libraire, chroniqueur, littérature, jeunesse et bande dessinée, pour faire une sorte de mezzé littéraire où tout le monde trouvera de quoi lire. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Bonjour Julia Minkowski.
Bonjour.
Par-delà l'attente, c'est votre roman Chez la Thèse qui revient sur l'affaire Papin. C'était en 1933, deux bonnes qui tuent leur patronne dans des conditions particulièrement atroces. Est-ce que d'abord, avant qu'on plonge au cœur du roman, qui n'est pas d'ailleurs les sœurs Papin particulièrement, mais plutôt leur avocate, est-ce que vous pouvez nous dresser le décor, nous rappeler ce qui s'est passé exactement cette année-là?
Oui, en février 1933, le soir de la Chandeleur, Christine et Léa Papin, respectivement cuisinière et femme de chambre d'une famille bourgeoise du Mans, vont assassiner et même massacrer leurs deux patronnes, c'est-à-dire la mère et la fille de cette famille bourgeoise. Christine et Léa sont sœurs. Elles ont été élevées dans des maisons quasi de correction, hein, des institutions connues au Mans pour justement former les futurs domestiques. Elles ont une mère très 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 spéciale qui les utilise et les font passer de maison en maison pour faire en sorte qu'elles soient davantage payées, évidemment garder leur gage. Et donc ce soir-là, dans cette maison, sans que personne ne puisse jamais savoir exactement ce qui s'est passé, elles vont tuer...
Énucléer,
c'est-à-dire arracher les yeux du vivant d'ailleurs des victimes, ce qui reste encore unique dans les annales judiciaires.
Aïe, aïe, aïe.
Prendre des couteaux de cuisine et les préparer comme des lapins. Je rappelle que Christine était cuisinière.
C'est Léonie et sa fille Geneviève Lancelin. On va y revenir, mais c'est un fait divers qui revient de temps en temps comme ça, dans l'actualité, pour un documentaire ou pour un film. Il y a eu Les Blessures Assassines avec Sylvie Testu, par exemple. Magnifique film, fascinant. Et qu'est-ce qui justement fascine dans ce fait divers? Est-ce que c'est cette violence extrême? Et qu'est-ce qui vous y a amené?
C'est un fait divers qui fascine, d'abord parce qu'il s'agit d'un acte criminel particulièrement violent commis par des femmes, ce qui reste assez rare. Dès que des femmes sont impliquées dans des affaires violentes, le fait divers est particulièrement marquant. Pour l'anecdote, je vous dis, il y a aujourd'hui, parmi les détenus, seulement 5% de femmes. Donc, des femmes devant la justice, des femmes qui commettent des actes criminels, en fait, il y en a assez peu. Je pense que c'est un des premiers éléments.
Qui échappent à la justice.
Peut-être parce qu'elles sont plus malines, voilà. Elles échappent à la justice, et donc personne ne sait qu'elles ont commis ces forfaits. Mais, en tout cas, quand elles sont prises la main dans le sac, ce qui est le cas des sœurs Papin, qui vont pas d'avoir tellement la possibilité de s'enfuir et qui du coup vont décider de se nettoyer de tout ce sang et de se glisser en peignoir dans leur lit en attendant gentiment d'être cueillies par la police. Ce sont des faits divers qui marquent l'histoire. Vous avez les sœurs Papin, à la même époque il y a Violette Nozière, les histoires d'empoisonneuses, d'avorteuses, etc. C'est un fait divers qui fascine aussi parce qu'on n'en connaît pas toujours pas le mobile aujourd'hui, donc on peut imaginer beaucoup de choses, ça crée des fantasmes et ça nourrit évidemment l'imaginaire. Ce fait divers a beaucoup mobilisé à l'époque la presse, évidemment, nationale, hein, qui tout le monde sait, tous les journalistes, les tribunaliers, les écotiers, comme on disait à l'époque, se sont pressés au Mans, mais aussi les intellectuels, les communistes, les surréalistes. Mmh. Il y avait en fait quelque chose dans cette révolte de domestiques dans la maison des bourgeois, en fait. La question étant, et si le petit peuple ne rôdait pas dans les maisons mêmes pour en finir avec, avec les patrons.
Oui, chacun y va de son angle. Et les communistes, c'est plutôt pour dire, bah voilà, à force de pressurer les gens comme ça et de les traiter comme des esclaves, voilà ce qui se passe, même si c'est pas excusable et tout. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on attendait pour la défense des sœurs Papin. Sauf que leur avocate n'a pas du tout pris cet angle de défense. Et je crois que c'est ça, en fait, c'est elle qui vous a emmené vers ce fait divers.
Voilà, moi je suis arrivée à cette histoire par Germaine Brière, qui est donc l'héroïne de mon roman. Je suis moi-même avocate pénaliste et je me suis posé la question de savoir si une avocate femme avait déjà accompagné son client condamné à mort à l'échafaud, puisque à l'époque de la peine de mort, les avocats assistaient aux exécutions.
Mais pourquoi donc, vous posez cette question-là ? Une drôle de question quand même.
Alors, on revient encore un petit peu en arrière. En tant qu'avocate pénaliste, ça fait un bout de temps que je m'intéresse à l'histoire des avocates, parce qu'elles ont été totalement effacées, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, totalement effacées de la mémoire collective. Elles ne figurent pas au panthéon des avocats. Vous savez, il y a toute une mythologie dans cette profession. C'est vraiment un métier de transmission. Les avocats se racontent des anecdotes, des histoires. On sait quel avocat, le bureau d'un tel, qui était collaborateur d'un autre. Mais vous n'avez jamais aucune femme dans tous ces discours. Et donc, moi, quand j'ai commencé comme collaboratrice, je n'ai pas du tout eu une éducation où on m'a dit « Ah ben non, il y a des métiers que tu ne pourras pas faire. » Donc, finalement, avoir Robert Badinter comme modèle, c'est tout à fait légitime. Et puis, au bout de quelques années, j'ai commencé à comprendre que non, Robert Badinter était un homme comme tous les ténors. D'ailleurs, le terme est masculin. Mmh. L'inconscient collectif, c'est l'image d'Épinal, c'est l'avocat pénaliste. Un homme de forte corpulence en général, avec une grosse voix qui s'énerve et qui est incarné totalement par le garde des Sceaux actuel, Éric Dupond-Moretti. Donc voilà, je fais ce travail sur les femmes. J'ai d'ailleurs écrit un premier livre, des portraits de 10 avocates pénalistes contemporaines. L'avocate était une femme, que j'ai coécrit avec Lisa Vignoli. C'est dans le prolongement de ces questionnements que j'ai voulu savoir si une femme avait accompagné un de ses clients à la mort.
Et vous saviez que c'était une avocate, les sœurs Papin ?
Eh bien, ça a été justement ma grande stupéfaction en faisant quelques recherches sur Germaine Brière, donc deuxième femme avocate de France à avoir défendu un condamné à mort, découvrir que les sœurs Papin, fait divers, donc fascinant pour toutes les raisons que je disais tout à l'heure et qui a déjà inspiré beaucoup d'auteurs, on pense évidemment au théâtre, Jean Genet les Bonnes, au cinéma avec Les Blessures assassines, La cérémonie de Chabrol, qui est l'adaptation d'un livre de Ruth Rendell. Mmh. Donc vraiment, on voit comme ce fait divers a nourri les auteurs depuis 1933. Mais je ne savais absolument pas qu'elles avaient été défendues par une femme. Et j'étais très étonnée parce que c'était, comme on l'a dit, un fait divers qui vraiment a retenu l'attention de tout un pays. Et qu'une femme ait pu les défendre et ne se fasse pas d'ailleurs voler la vedette par un grand ténor, c'était totalement inédit.
Seule avocate inscrite au barreau à l'époque, et première j'imagine aussi, mais ce qui est intéressant c'est que votre roman c'est de son point de vue, et elle attend en fait le verdict, tout est terminé et elle revient sur l'affaire, et nous avec elle on y revient dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec Julia Minkowski pour Par-delà l'attente chez Lattès, l'histoire des sœurs Papin. Encore, oui, mais vue par Germaine Brière, leur avocate. On est en 1933, je rappelle, c'est un fait divers atroce. Deux bonnes, les sœurs Papin, Christine et Léa, ont assassiné et massacré en fait leur patronne, Léonie et Geneviève Lancelin. Et vous, Julia Minkowski, vous avez décidé d'attaquer ça par la justice, puisque vous êtes aussi avocate pénaliste. Et là, on se retrouve à côté, dans le couloir, à côté du tribunal, en attendant le verdict. On est avec Germaine Brière. On raconte à la fois le fait divers et comment elle a défendu les sœurs Papin, mais aussi sa vie à elle, personnelle, et sa vie d'avocate. Et je voudrais reprendre le cours de l'émission par là. C'est-à-dire qu'en tant qu'avocate, pour devenir avocate, elle a dû, on est en 1933, c'est pas non plus, montrer un certificat de virginité. Ça existait.
C'est totalement désespérant pour cette époque qui, en effet, n'est pas si lointaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la profession d'avocat est accessible aux femmes depuis le début du XXe siècle. On parle souvent de Jeanne Chauvin, la première avocate inscrite au barreau de Paris. Donc, en 1933, il n'y a aucun obstacle à ce qu'une femme puisse prêter serment, si ce n'est que peu de femmes arrivent à obtenir le baccalauréat et encore plus poursuivre leurs études au-delà de cela, à poursuivre des études supérieures. D'autant que Germaine Brière, elle a dû rencontrer la première guerre mondiale, la Grande Guerre, qui a dû ralentir un peu ses études. Mais malgré tout, voilà, elle passe son baccalauréat alors qu'elle vit au Mans, donc en province. Elle est la seule bachelière, évidemment, au Mans cette année-là. Elle poursuit ses études supérieures. Elle a vraiment tous les diplômes en poche. Mais ces messieurs du barreau du Mans en avaient décidé autrement et ils n'entendaient absolument pas à ce qu'une femme puisse venir les côtoyer. Ils vont donc ordonner une enquête de personnalité par un commissaire de police sous la houlette du procureur de la République. On parle de choses sérieuses. Et cette enquête va être en réalité un ramassis de rumeurs, de ragots sur sa prétendue immoralité ainsi que celle de sa mère, des extravagances de costumes et d'allures, la fréquentation des brasseries et des skating. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait ces endroits en fait, on faisait du patin et roulette en écoutant de la musique. Et ils vont lui refuser l'accession à la profession. Donc elle va leur faire un procès. C'était quelqu'un, manifestement. Justement, Germaine Brière. En plus, elle est toute jeune. Et à la cour d'appel d'Angers, une contre-enquête va être ordonnée dans le cadre de laquelle elle va fournir un certificat de virginité pour démontrer que, n'étant pas mariée, elle est bien vierge et donc au-dessus de tout soupçon.
Alors, ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est qu'on alterne sans arrêt entre une fascination à la fois pour l'affaire, bien entendu, pour les avocats en général et le métier d'avocat en général, et puis Germaine elle-même, bien entendu. Et évidemment, tout est rassemblé, ces trois dimensions sont rassemblées à chaque fois qu'on plonge dans la plaidoirie. Et notamment, elle décide d'utiliser l'article 64, de baser un peu sa plaidoirie là-dessus, que je vous lis. « Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été commis par une force à laquelle il n'a pas pu résister. » Autrement dit, si elle arrive à montrer que pendant ce laps de temps, elles étaient en fait déconnectées de la réalité, elles peuvent éventuellement peut-être être acquittées, en tout cas partir dans un hôpital psychiatrique plutôt que sur l'échafaud.
Oui,
on dirait du John Grisham.
Oui. Pour raconter l'histoire de Germaine et sa vie, j'ai choisi comme temps du récit cette attente du verdict, parce que c'est un temps très particulier pour les avocats. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Une demi-heure, 6 heures, vous êtes là. En l'occurrence, on est dans la nuit, puisque ça, c'est véridique. La plaidoirie de la défense dans l'affaire Papin a été faite aux alentours de minuit, dans ce palais désert ou quasi désert. Et on attend. Et moi, je trouve que l'attente est formidable, est un formidable espace de narration. On se raconte des histoires pour attendre, pour ne pas s'ennuyer. On est plongé dans ses souvenirs. Et évidemment, quand on est avocat, on s'interroge sur sa stratégie. Et Germaine Brière, qui était vraiment décidément très avant-gardiste, oui, elle a plaidé l'article 64, l'irresponsabilité pénale. Elle a plaidé la folie, comme on dit. C'est-à-dire que, si au moment de l'acte, votre discernement est soit altéré, soit abolie, votre responsabilité pénale en est modifiée. C'est-à-dire, soit elle est affaiblie, soit en cas d'abolition, elle n'existe même pas. Et ce n'est pas au juge de s'occuper de vous, mais aux aliénistes, comme on disait à l'époque aussi.
Et alors, ce qui est fascinant aussi dans ce fait divers, c'est que c'est le mobile et le pourquoi. Et on ne comprend pas. Et à un moment, vous sortez un mot, ça s'appelle l'AMOC. Qu'est-ce que c'est l'AMOC ? A-M-O-K. Pour le Scrabble aussi, ça peut servir.
Oui, la moque, c'est la pulsion criminelle.
Sans but.
sans but, sans mobile. Enfin, il y a un but manifeste, mais en tout cas, il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de raison. C'est une folie qui s'empare de l'esprit humain, hein, comme un esprit qui s'empare de vous et vous pousse au crime. Ce qui est certain, c'est que à cette époque, mais encore aujourd'hui, en fait, la société a beaucoup de mal à accepter l'existence même de la MOC ou l'irresponsabilité pénale. C'est-à-dire qu'il y a souvent des affaires retentissantes où, quand bien même un expert, deux experts, trois experts viendraient expliquer que cette personne n'est pas responsable de ses actes, puisque elle est son esprit est altéré psychiquement. On a beaucoup de mal à accepter, on le remet en cause.
C'est terrible pour les victimes.
C'est terrible pour les victimes.
Pardon, je vous coupe, mais en l'occurrence, dans cette affaire, il y a un expert qui dit « oui, elles étaient folles », mais à la question du juge « est-ce que vous les avez rencontrées ?», il répond « non ». Et donc, ça casse complètement cette idée de montrer qu'elles étaient en fait déconnectées de la réalité au moment du crime, quoi.
Oui,
c'est très compliqué de toute façon à prouver, même s'ils les avaient rencontrées.
Oui, alors vous citiez John Grisham, là on rejoint Kafka, parce qu'en fait le président de la Cour d'assises dit « mais vous ne les avez jamais rencontrées », mais pourquoi il ne les a jamais rencontrées? Parce que lui-même, président, ne lui en a pas donné l'autorisation. Et donc ce docteur Logre, qui était le médecin de la préfecture de police et qui... est apparu d'ailleurs dans de nombreux procès de l'époque, est cité par la défense comme contre-expert. Il y a un collège de trois experts, les experts dits officiels, qui eux ont conclu à la responsabilité. Mais Germaine Brière, cette avocate, elle a pu assister, parce qu'au mois de juillet, donc février, le crime, septembre, l'audience. À l'époque, la justice était beaucoup plus rapide. Donc en juillet, crise de délire de Christine Papin. Et donc cette avocate, elle a assisté en fait à ce moment-là et elle a bien vu. Le collège d'experts, il est contraint en fait, justement, par la pression sociale. Et j'ai appris à la lecture d'une thèse d'une psychologue, je crois qu'elle est psychologue, Isabelle Bédoué, qu'en fait, un des experts, des années plus tard, 15 ans, 20 ans plus tard, sollicité par un de ses confrères sur la communication de ses notes pendant l'affaire Papin, va écrire que tout cela était une farce et qu'ils avaient été contraints en fait, à conclure à l'absence de folie, puisqu'il n'était pas question que les médecins bourgeois ne défendent pas les bourgeois victimes, en l'occurrence. Mais oui, c'est très difficile pour les victimes quand il n'y a pas de procès, quand on conclut à l'abolition ou à l'altération du discernement, c'est vrai. Mais malheureusement, le procès, c'est le procès de l'accusé. Ce n'est pas le procès des victimes.
Et elle a bien du mérite, maître Germaine Brière, parce que même ses clientes ne lui facilitent pas la tâche. On va en parler tout de suite.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Par-delà l'attente, c'est chez Lattès, c'est signé Julia Minkowski qui est toujours avec nous. Julia Minkowski, maître Julia Minkowski, on parlait, parce que vous êtes avocate aussi, on parlait de la technique justement de la plaidoirie de maître Germaine Brière, l'avocate des Sœurs Papin, qui considère que ses clientes étaient déconnectées de la réalité pendant le crime et ce qui pourrait aider à leur éviter l'échafaud. Mais Léa et Christine Papin ne l'aident pas beaucoup, puisque Christine ne dit jamais rien et Léa, la petite sœur, suit toujours Christine. Et donc, en fait, elle les défend presque malgré elle.
Elle les défend, oui, presque ou même vraiment malgré elle, puisque après la condamnation, Christine Papin va même refuser de signer son pourvoi en cassation dans un premier temps, puis son recours en grâce. Et sans grâce, il y a exécution, puisque c'est la peine qui a été prononcée. Je ne crois pas dévoiler un mystère absolu, puisque ce fait divers est quand même assez connu. Et au procès, Christine a les yeux fermés, hein, ça c'est rapporté par toute la chronique judiciaire. Elle est quasi muette.
Je suis allé voir les photos après la lecture.
Ouais.
Oh là là, ouais, ça aide pas non plus, quoi.
Oui, c'est ce que je dis. J'avais une discussion d'ailleurs là-dessus avec mon éditrice au moment de la rédaction. Mais oui, c'est vrai que ça n'aide pas parce que Christine Papin, en fait, on voit d'ailleurs, quand on voit des photos d'elle dans le passé, puis au moment de l'arrestation, au moment du procès, et même vous avez des photos postérieures au moment où elle part, où elle quitte le Mans pour la prison centrale de Rennes, après la grâce, on voit bien, oui, qu'elle se détériore physiquement et qu'elle prend un air très repoussant. Et ce que je fais dire à Germaine dans sa tête, c'est que ça n'aide pas le dossier. Oui, c'est vrai.
Mais elle veut payer, d'une certaine manière. Elle a considéré qu'elle avait fait ce qu'elle avait eu envie de faire, et c'est tout, et elle en paierait le prix.
Oui, déjà, elle va tout avouer tout de suite, Christine Papin. Et donc, Léa ne va faire que confirmer les dires de sa grande sœur, sans jamais donner aucune précision. Elle va faire un revirement en disant que, contrairement à ce qui avait été dit au départ, non, c'est seule qu'elle a tué Léonie et Geneviève Lancelin sans l'aide de Léa. Et puis, une fois qu'elle a dit ça, elle va s'enfermer dans le silence et elle ne va jamais rien précisé exactement de comment les choses se passaient dans cette maison. Elle n'a jamais évoqué d'autres motifs que des plombs qui avaient sauté à cause d'un fer à repasser défectueux et d'une remontrance de sa patronne.
La patronne rentre et elle dit: qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas de ma faute. Et puis ça grimpe et puis l'escalade de violence arrive là.
Oui, alors qu'il y a un PV dans le dossier qui n'est pas du tout clair sur la question de savoir si les plombs ont vraiment sauté ce jour-là, si la maison était dans le noir au moment où les policiers sont entrés. Le dossier, justement, la justice était rapide et peut-être un peu expéditive. Quand Christine reçoit le verdict donc de condamnation à mort, ce que rapporte la chronique judiciaire, c'est qu'elle va tomber à genoux en position de suppliante. Et donc moi, je me suis interrogée, comme j'imagine toute la salle d'ailleurs, sur la signification. Est-ce qu'elle implore la miséricorde, mais on sait qu'elle ne va pas signer son recours en grâce, ou est-ce qu'au contraire, elle remercie quelque part le Seigneur de lui avoir envoyé ce verdict de mort, parce que peut-être qu'elle ne supporte plus d'être enfermée dans cette folie. La vérité, pour en avoir parlé avec des spécialistes et des psychiatres, c'est que très vraisemblablement, Christine Papin était schizophrène.
Et alors, tout est justement incroyable dans cette affaire. C'est vrai qu'il y a même des détails, par exemple, les agents qui rentrent sur la scène de crime. Mais alors ça, on met ça dans un roman, l'éditeur fait changer immédiatement, quoi. Il s'appelle Les agents à Rago et Vérité. Et qu'est-ce que vous faites de ça? Et comment vous transformez, parce que je rappelle que c'est un roman, comment vous transformez cette affaire en roman? Alors vous inventez aussi une histoire d'amour à Germaine, et les dialogues, et vous sondez les cœurs et les âmes. Mais comment vous faites de l'affaire aussi un roman?
Oui, Rago et Vérité, c'est d'autant plus amusant que justement dans cette affaire, on ne connaîtra jamais la vérité et que les ragots l'ont emporté avec des rumeurs de relations incestueuses entre les deux sœurs, nourries aujourd'hui par justement ce film adapté d'un roman, donc les blessures assassines, qui part sur cette piste, mais sans qu'elle n'ait jamais été confirmée. C'est un roman parce que, moi je ne suis pas chercheur, je ne suis pas archiviste, il me manque beaucoup de choses. La vie de Germaine Brière, j'ai pu en recueillir quelques aspects. C'était donc cette jeune femme qui obtient son bac, obtient ses diplômes, fait un procès au barreau du Mans, fournit ce certificat de virginité, est fille unique, ne se marie pas, meurt prématurément. Et voilà.
Fin
et donc,
du matériau.
Entre tout ça, j'ai imaginé ce qu'il y avait pu se passer pour la conduire ce soir de septembre 1933 à défendre les sœurs Papin, à le faire aussi comme elle l'a fait, en fait. Et moi, j'adore les romans comme ça aussi à l'origine. Souvent je cite, parce que c'est assez parlant, le roman de Lola Lafont sur Nadia Comăneci, parce que quand j'étais petite j'adorais Nadia Comăneci, la gymnaste roumaine, et dans ce roman Lola Lafont en fait prend des événements historiques, des images même télévisuelles des Jeux Olympiques, etc., et imagine ce qui avait pu se passer dans la tête de Nadia avec ses parents, ses entraîneurs, etc. Mais elle a pu profiter du fait que Nadia Comăneci était toujours vivante pour lui envoyer des passages. Et dans son livre, vous avez à la fois les passages de fiction qu'elle a imaginés en s'inspirant de faits réels et la réaction de Nadia Comăneci qui dit « mais pas du tout, c'est absolument pas ce que j'ai pensé à ce moment-là, ça s'est pas passé comme ça, etc. » Et donc on voit bien que plutôt que de faire une biographie plus ou moins romancée, moi je trouve c'est beaucoup plus riche de faire carrément un roman et puis d'assumer sa propre part de fantasme projeté sur une héroïne qui plus est dans un fait divers déjà aussi connu, mais en lui donnant une lumière judiciaire, ce qui n'avait pas été fait auparavant.
Est-ce qu'on peut éprouver de l'empathie pour les sœurs Papin ? Presque on les pardonne assez facilement, alors qu'elles ont tué deux femmes dans des conditions atroces.
Ouais. À l'époque, ce qui, à mon avis, arriverait moins aujourd'hui, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, à l'époque, elles ont bénéficié d'une grande empathie. On parlait tout à l'heure des intellectuels, etc. Il y avait un journal, je crois, détective, sans me tromper, je crois, qui avait titré... Sur l'assassinat des deux garces, c'est-à-dire qu'on avait fantasmé en fait sur les deux victimes, Léonie et Geneviève Lancelin, un comportement très maltraitant envers les deux sœurs, et que finalement Christine et Léa Papin avaient eu bien raison de se débarrasser d'elles. Et d'ailleurs Simone de Beauvoir, qui à l'époque va faire partie de ces intellectuels très en soutien de Christine et Léa, dans La force de l'âge, donc les mémoires qu'elle écrit beaucoup plus tard, elle revient sur cet épisode en disant mais on s'est tous complètement fourvoyés, manifestement c'était juste deux pauvres folles et on avait voulu en faire des icônes. Mais oui, moi j'ai de la compassion, mais
on est indulgent avec elle quand même.
Oui, enfin le verdict n'a pas été indulgent. On est indulgent au-delà de leurs conditions, je pense surtout en raison de leur état mental. Et quand on se plonge dans le dossier, on voit bien qu'il y avait beaucoup de traces qui montraient que Christine surtout avait plongé dans la folie et qu'il y avait une indifférence de la part des patrons par rapport à cette dérive, parce que finalement c'était des perles, et tant que ça posait pas trop de problèmes, on les laissait faire leur travail parce que ça arrangeait bien.
Dernière question, est-ce que vous auriez aimé les défendre ?
C'est une bonne question.
On ne vous l'a jamais posé ?
Non.
Ah tiens.
Non, on ne me l'a jamais posé.
Prenez 30 secondes.
On m'a demandé comment je les aurais défendus, mais pas si j'aurais aimé les défendre. Oui, ce que j'ai projeté sur Jamaine Brière, à savoir qu'en fait, elle va faire des pieds et des mains pour défendre Christine et Léa. Quand on est avocat pénaliste, je trouve que la meilleure comparaison, c'est celle des chirurgiens. C'est-à-dire que de la même façon que la tumeur la plus délicate à extraire va attirer la main du chirurgien, le crime le plus monstrueux attire l'avocat pénaliste. Oui, ça c'est certain. Évidemment que j'aurais aimé les défendre, surtout qu'il y avait cet enjeu de responsabilité.
Malgré moi, je me suis laissé aussi un peu attirer, un peu trop par le fait divers. On a moins parlé de Germaine Brière, mais ça tombe bien, puisque tout Germaine Brière est dans votre roman Par-delà l'attente, chez Lattès. Merci beaucoup, Julia Minkowski.
Merci à vous.
Et dans un instant, visite de bibliothèque, celle du chanteur Dominique A. A tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, ça continue. Je ne connais personne qui n'aime pas Dominique A. Pour les mélodies, la musique de ses chansons, mais aussi pour leur poésie. Et tout naturellement, il a publié un recueil de poésie à l'Iconopop. Ça s'appelle Le Présent Impossible, signé Dominique A. Né, c'est son vrai nom. Et le recueil est illustré par Edmond Baudouin. Allons voir de quel livre il se chauffe. Bonjour Dominique A.
Bonjour.
Merci de nous recevoir. Alors, pas chez vous.
Non.
Parce que vous habitez Rennes.
Nantes.
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 Pardon, vous habitez Nantes.
Les villes ennemies.
Moi, je suis nantais.
Ah bon, d'accord.
Donc, je suis votre team. Mais bon, bref, on n'a pas pu aller jusque chez vous. Donc, c'est vous qui êtes à Paris en ce moment. Et donc, on a choisi une librairie comme un roman dans le 3e arrondissement de Paris pour essayer de voir ce qui vous plaisait, vous. Ce qui pourrait être chez vous, en fait. Mm-hmm. Mais d'abord, est-ce que
j'aimerais
vous
bien
pouvez nous dire comment, ce qu'il y a chez vous ? Quels sont les livres ? Comment est la bibliothèque ? Le meuble ? Comment vous les rangez ? Est-ce qu'il y en a d'abord ?
C'est moins bien rangé qu'ici. C'est pour ça que je disais que j'aimerais bien que ce soit chez moi. Parce que chez moi, c'est le foutoir, en fait. Il y en a partout. Il y en a sur les escaliers. Il y a une bibliothèque. Mais il y a aussi tout ce qui est en dehors de la bibliothèque parce qu'elle est trop petite. Et il y en a partout. Il y en a partout. Voilà, c'est un sujet de...
De discorde.
De discorde conjugale.
mais pourquoi il y en a partout ? Pourquoi vous prenez parce pas que... une bonne grosse bibliothèque pour tout ranger par ordre alphabétique ?
Parce qu'elle déborde, en fait. Et bon, alors je suis auteur autant de littérature. lapsus. Je suis amateur autant de littérature que de bande dessinée. Bande dessinée, ce sont souvent des volumes assez imposants, surtout dans la production contemporaine. Ça prend de la place. J'ai des bouquins d'art aussi. J'aime tout type de livre, en fait. Et donc, je crois que finalement, enfin, ce qui me plaît aussi, c'est d'avoir une espèce de bibliothèque très dispersée où je retrouve des choses. Encore hier, en rangeant des, j'ai retrouvé un Julien Gracq que j'avais pas lu. Voilà. Donc je vais lire Un beau ténébreux si ça ne saurait tarder.
Dans les éditions Corti.
Corti,
avec
ouais.
Avec les pages non découpées. Qui
voilà, c'est ça.
Soi-même.
C'est ça. Mais là, le précédent propriétaire du livre m'a mâché le travail. Les pages sont découpées.
Julien Gracq qui habite à côté de Nantes d'ailleurs, enfin qui habitait à côté
oui,
de Nantes.
Oui, à Saint-Florent-le-Vieil, bien sûr.
Il y a la maison Julien Gracq aujourd'hui qui est une résidence d'écrivain magnifique.
Tout à fait.
Et Julien Gracq, c'est un de vos auteurs fétiches ?
Non, pas du tout, mais voilà, j'avais lu il y a bien longtemps
Le rivage des Sirtes.
Ouais, Le rivage des Sirtes et Un balcon en forêt, pardon. Et, mais c'était dans un cadre scolaire. Et récemment, j'ai lu un livre de textes inédits qui avait été assemblé en passant en attendant. Le titre m'échappe peut-être, qui est paru chez Corti il y a 2 ans, je crois, qui est magnifique. Donc, ça m'a donné envie de me replonger dans ces romans, de creuser, parce que je le connais peu, en fait.
Qu'est-ce qu'on trouve d'autre si on déambule chez vous, comme ça, et qu'on prend un livre qui est par terre, là, au hasard, dans l'escalier ?
Vous allez trouver beaucoup de choses, mais est-ce que vous voulez que je vous parle d'un livre en particulier ?
Je ne sais pas, je me dis, celui que vous cherchez absolument, s'il y a le feu chez vous, il faut absolument que vous l'emportiez.
Alors là,
quoi.
Il y en a un, c'est surtout dans une édition de 1937, donc avec des illustrations magnifiques, c'est Le Grand Moule d'Alain Fournier. J'ai une édition, alors je ne sais plus quel est l'éditeur, mais c'est une édition rare. C'est tout simplement le livre qui m'a. Alors on va le trouver facilement, mais c'est vrai que tout à l'heure je l'ai cherché à la lettre F, alors qu'évidemment il est à la lettre A.
Ah oui, parce que c'est Alain Fournier avec un trait d'union entre les deux.
Tout à fait.
C'est un pseudo en fait.
Ben oui, complètement. C'est une erreur.
Alors, Alain Fournier, Le Grand Moulin, je rappelle, c'est l'histoire d'un garçon qui est à l'école. Son père est le directeur de l'école.
Oui.
C'est en campagne. Et puis un jour arrive un type assez charismatique, un nouveau camarade, et qu'on surnomme le Grand Moulin, parce qu'il s'appelle Augustin Moulin, je crois.
Augustin Moulin.
Et, cet Augustin fait une fugue, et il tombe dans une sorte de fête de mariage, on ne sait pas trop où il est, mais enfin, c'est un moment incroyable pour lui, et puis le lendemain, ça se termine, et puis il marche, et puis il perd l'endroit, et puis maintenant, son but, c'est de retrouver cet endroit incroyable où il y avait une Yvonne.
Voilà, retrouver la femme surtout qu'il a rencontrée.
Et c'est aussi le roman de la fugue et tout. Pourquoi c'est un de vos romans préférés ?
En fait, c'est tout simplement le livre qui m'a éveillé à la littérature. Je l'ai lu, j'avais 12-13 ans. C'est vraiment le livre qui m'a convaincu de la puissance des livres, tout simplement. Et puis qui rejoignait alors le personnage évidemment, c'est en plus j'avais l'âge des protagonistes hein, grosso modo puisque le narrateur doit avoir 14-15 ans, j'avais 12-13 ans à l'époque et c'est le récit de la fête étrange dans laquelle se retrouve Augustin Moulin, c'est tout le parcours sur ce sentier mystérieux, on imagine des haies, des ce qu'on appelle des chasses, c'est-à-dire des chemins fermés, de végétaux fermés dans lesquels Augustin Moulin s'aventure jusqu'au point où il arrive à ce château fantastique. C'est la quête et c'est aussi c'est une quête qui finalement sera assouvie puisqu'il va retrouver Yvonne de Galais. Mais en même temps, oh bah mon Dieu, spoil.
Alors c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut spoiler les classiques ?
Non.
Parce qu'après tout,
on fait ce qu'on veut. Hein.
À un moment où ils sont dans le patrimoine.
Oui. Et puis l'intérêt est pas là. C'est-à-dire que au-delà du récit lui-même, c'est la manière, c'est l'atmosphère. Et moi, ce que je cherche dans un livre, grosso modo, enfin, ce que j'ai trouvé dans Le Grand Moulin, que je recherche dans tous les livres, c'est l'atmosphère. Ça peut parler de rien, mais si la forme est là, moi, je peux être, je peux y aller, quoi, de droit devant.
Et alors, il vient d'où cet exemplaire de 1937 ?
Alors, j'en avais vu un exemplaire chez une amie, dans une maison de campagne, une maison familiale d'une amie, détenue par les parents de cette amie.
Et
je sais me tenir. Mais du coup, je l'ai cherché et je l'ai trouvé. J'en ai trouvé un autre.
Mais dédicacé ou...
Ah non, pas du tout. Non. Mais c'est une édition magnifique avec un... tout sur le plan de l'objet, des illustrations. Alors, je ne sais plus quel est le nom de l'illustrateur, il m'échappe.
De toute façon, 1937, il me semble qu'il était déjà mort, Alain Fournier.
Ah, Alain Fournier était mort, ça c'est sûr. Ouais. Mais donc c'est une réédition, bien sûr. Hein. Mais c'est une édition un peu...
Et pourquoi dire... celle-là, ouais.
Les illustrations et la typographie, l'objet lui-même... Le côté aussi sépia, c'est-à-dire évidemment, ça épouse aussi, quand vous avez un exemplaire comme ça d'un livre qui a plus d'une centaine d'années aujourd'hui, dans une édition qui elle-même a traversé des guerres, enfin une guerre en particulier, ça donne, il y a comment dire, une plus-value. On a l'impression que l'aspect du livre épouse le propos du livre lui-même.
Et vous le relisez régulièrement ou simplement vous fermez les yeux et vous vous souvenez du Grand Maulne ?
Non, je relis peu, moi. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a tellement de livres sur cette planète et le temps qui nous est imparti est tellement désespérant que je préfère découvrir et rester sur mon impression. Mais le Maulne, je l'ai lu 3-4 fois. C'est le livre que j'ai le plus lu, ouais. Parce qu'en fait, je relis peu, je relis quasiment rien.
Mais différemment à chaque fois que vous le lisez, puisque vous avancez
toujours
en âge.
Toujours avec le même plaisir. Toujours avec le même plaisir.
Mais avec une grille de lecture peut-être différente d'un point
j'ai
de vue de la vie.
Non,
d'accord.
J'ai l'impression d'être toujours l'adolescent qui découvre
ça.
Ah oui,
encore mieux.
Ouais, j'ai l'impression que mon ressenti n'a pas bougé parce que mon attitude face au livre n'a pas bougé non plus. À la limite, c'est un livre qui m'infantilise.
Je vois exactement
dans le bon sens
ce que vous
terme.
Voulez dire. Il y a les deux façons. Soit on relit un livre, mais avec notre âge et avec un point de vue différent, ce qui peut être très, très intéressant. Soit on est téléporté à l'âge auquel on l'a lu pour la première fois.
Ouais. Mais moi, c'est la téléportation directe.
Ce qui est intéressant aussi avec le Grand Maulne, c'est que le roman est magnifique, mais on est aussi souvent fasciné par l'auteur, Alain Fournier, qui meurt très jeune, qui est l'homme d'un livre, en fait. Quoi.
Oui, qui n'a pas eu le temps de
On se demande qu'est-ce qu'il aurait pu faire.
Bah, il n'a pas eu le temps de gâcher le Grand Maulne. parce que c'est le livre de sa vie, et puis c'est surtout tiré de son expérience, d'un amour déçu. C'est-à-dire qu'il a transposé dans son livre toute sa déception amoureuse, en devenant en quelque sorte narrateur de sa propre déception, en même temps en intronisant un personnage extérieur. Comme la projection rêvée de ce qu'il aurait aimé vivre avec cette femme-là.
Ouais, il n'a pas eu le temps de faire le Grand Maulne 2.
Non.
C'est peut-être, finalement. Je vois du Modiano ici.
Oui.
Et quand je vous ai dit de préparer quand même quelques cartouches, comme on n'est pas chez vous, et vous m'avez dit Modiano, ça me plaît bien. Et en fait, je me suis dit, mais j'aurais dû y penser moi-même, quoi. Parce que vous avez cette douceur de souvenir aussi dans vos chansons, cette mélancolie douce, je ne sais pas comment dire. Mais c'est ça ce qui vous plaît chez Modiano ? C'est autre chose ?
C'est la quête, là encore. C'est ces personnages qui cherchent tout le temps, qui sont finalement dans un périmètre qui est souvent assez circonscrit à Paris. Alors, Paris, c'est pas assez. Comme disait l'autre, Paris est si petit pour les gens qui s'aiment, mais c'est la brume, c'est l'espèce de brouillard mémoriel et le brouillard du décor qu'il y a dans tous les bouquins de Modiano qui m'intéresse. Et puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez Modiano qui, à la fois, finalement, c'est assez factuel, c'est assez réaliste, tout en étant noyé dans une espèce de brume mémorielle qui rend les choses assez imprécises. Mais je trouve qu'il y a un truc que... Alors ça, c'est très subjectif, mais j'ai l'impression que... je ne sais pas comment l'exprimer, mais j'ai l'impression de sentir chez lui, on ressent très fortement la vulnérabilité des corps. C'est-à-dire que ce n'est pas un auteur corporel, physique, Modiano, pas du tout. On est sur un truc qui pourrait paraître... dans l'imagination des gens peut-être évanescent, mais moi, pas pour moi, non. J'ai l'impression qu'on ressent très fortement ce qu'il arrive intérieurement, psychologiquement et aussi physiquement. Alors je ne saurais pas mieux le dire parce que je n'ai pas de... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression là, mais en tout cas pour moi c'est pas du tout quelqu'un qui est diaphane ou dans son écriture ou C'est très consistant. Ouais, c'est très consistant pour moi.
C'est quoi la différence, juste pour parler un peu de poésie, on va aller au rayon tout à l'heure, ouais. Mais ça me faisait penser à la différence entre écrire une chanson et ouais. écrire un poème. Est-ce que d'ailleurs ça se compare ou ça n'a vraiment rien à voir? C'est ouais, vraiment idiot comme question.
Non, c'est pas idiot, je ne me permettrai pas. Non, le point de jonction, c'est l'écriture, c'est le mot. Hein, après et puis c'est le vers, c'est-à-dire vous n'êtes pas dans une écriture en prose, donc ouais, y a quand même des éléments de comparaison. Après, c'est vrai que moi, je n'y mets pas la même chose que quand j'écris un texte de chanson. Bah, je vais me projeter dans la peau de l'interprète que je vais être par rapport à ce texte-là. Et je vais le versifier de façon beaucoup plus classique que quand je vais écrire un texte, un poème qui n'est pas destiné à être chanté. Et puis surtout, il y a des choses, quand j'écris un poème, je vais sur des terrains des fois plus intimes, où je sais que je n'aurai pas à assumer en public ce que je vais, sauf si je fais une lecture. Mais bon.
Ouais, ça fait une sacrée différence quand même.
Ah ben c'est l'essentiel de la différence. C'est la projection après vous. C'est le fait que vous soyez interprète de vos propres textes.
Vous ne le chantez donc, pas tous les soirs comme ça voilà, devant 5000
personnes.
Vous
n'avez pas l'assumé. Vous pouvez le lire en librairie, dans une. Voilà. Ça ne mange pas de pain, ça ne vous expose pas. Mais le chanter, le mettre en scène, c'est une autre histoire. Et puis au-delà de ça, au niveau de l'écriture, c'est pour moi, le alors c'est là où moi je ne prétends pas poète, j'écris des poèmes. C'est une espèce d'espace de liberté que je découvre, et je suis encore dans la découverte de cet espace de liberté-là. Alors que la chanson, bon, maintenant, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'en fais. Donc je suis plus dans une tentative de ne pas reproduire ce que j'ai déjà écrit. Donc c'est des rapports à l'écriture qui sont différents, de fait.
Mais on vous connaît mieux si on lit vos poèmes, en fait.
En tant que personne, oui, clairement. Parce que déjà, il y a quelques traits d'humour dans mes poèmes qui sont complètement absents de mes chansons.
C'est vrai.
Donc oui, on me connaît mieux.
Et pourquoi vous vous en abstenez pour les chansons?
Parce que...
C'est conscient
disons que tous les traits d'humour que je cherche à faire passer en chanson tombent à plat. Du fait du son de ma voix. Donc il faut juste être conscient.
Donc vous ne pouvez pas raconter de blagues à un dîner, vous?
Ah bah si. Mais il ne faut pas que je la chante.
Pas la chanter. On parlait de poésie et il y a justement un rayon poésie là-bas. Ouais,
qui a l'air bien achalandé.
Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que la poésie, c'est pas... Ça se vend pas non plus. Ouais, voilà, c'est compliqué comme circuit.
Moi, j'y crois à fond.
Éditorial. Mais l'Iconopop, ouais. Aux éditions L'Iconoclaste, ouais. qui publie donc ses recueils de poèmes, vous en signez un en ce moment, arrive à redonner un peu de modernité sans mentir, sans prendre les choses de travers.
Non.
C'est ça ce qui vous a plu?
Oui, alors ce qui m'a plu, c'est qu'il m'ait contacté dans un premier temps, et puis que je les ai rencontrés et que je me suis rendu compte qu'on était. On était sur une même longueur d'onde. C'est des gens qui sont immergés, enfin, notamment l'éditeur Alexandre Bord, avec qui je travaille en premier lieu, et Cécile Coulon, bien sûr, qui sont à l'origine de la collection. Ils sont immergés complètement dans la poésie, ils connaissent très bien la poésie, et ils ont tout simplement pas envie de dépoussiérer quoi que ce soit. C'est pas l'idée, c'est plus l'idée de dire. Voilà, il y a des a priori qui sont apparemment inamovibles, et on va essayer de les battre en brèche en présentant la poésie un petit peu différemment. Mais c'est pas du tout une volonté de faire tout voler en éclats.
Non, c'est vrai qu'ils essayent pas du tout de dépoussiérer ou de faire croire que c'est autre chose.
Non.
Mais et ils sont quand même formidables et bravo à eux et tout. Mais il y a certains éditeurs de poésie qui, au contraire, j'invente le mot, je crois, mais poussiérisent un peu leurs livres pour que ça fasse plus sérieux, quoi, avec des couvertures un peu ternes. On regarde le truc, on se dit... Oh,
je pense que...
Mais attention, je ne porte pas de jugement, mais c'est vrai que...
Vous avez le droit
là parfois. Oui, bien sûr, mais pas sur eux, parce que d'accord. Je les aime trop. Mais je veux dire, il y a cette volonté de ne pas trahir la poésie en mettant trop de modernité, enfin de marketing.
Oui, tout à fait. Alors moi je pense que la poésie est un moi je pense qu'un jour un livre de poésie va arriver qui va plaire à un grand nombre de gens et que ça va amener les gens à la poésie. Il y a pas mal de gens, de jeunes gens notamment, qui sont vers la poésie parce que, mine de rien, c'est un format aussi, la poésie, où on est dans la rapidité, dans le format court, dans la brièveté.
Qui correspond à l'époque aussi.
Et la poésie peut épouser justement un temps de lecture qui est une attention qui est assez fugace. Donc voilà, moi je crois vachement à la résurgence de la poésie. Je pense qu'il y a un goût pour ça, qu'il y a aussi des choses qui ne peuvent être dites que de cette façon-là, en fait, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le... On n'est pas dans l'essai, on n'est pas dans le slogan. On peut être dans un domaine intermédiaire où on présente les choses de façon métaphorique et en même temps, on parle de la réalité des choses. Mmh. Et je pense que la poésie était un domaine approprié pour ça.
Je vois un recueil d'Emily Dickinson, là, qui est une poète assez fascinante parce qu'elle est restée cloîtrée en fait, chez elle pour écrire et pour ne rien faire d'autre. Mmh. Est-ce que ça a été une tentation chez vous?
Non.
Vous êtes, de rester comme ça pour se consacrer à l'écriture?
Non, moi je...
Ah, il y a le rayon poésie qui doit être utilisé, donc on se dégage un peu.
Non, pas du tout. Moi, j'ai besoin de contact, j'ai besoin justement de faire sortir, de présenter ce qui sort au vaste monde. Pas du tout cette tentation de l'isolement. Au contraire, moi, j'ai l'impression d'avoir fait des choses dans la perspective, non pas forcément d'un partage, mais d'une proposition et donc d'un retour. Alors ça peut pas être, et c'est à la base de toute façon très égoïste. Hein. L'artiste, il arrive vers les gens en disant vous m'attendiez.
Il y a une arrogance chez l'artiste.
Bien sûr, mais de bonne aloi ou pas.
Je suis tellement persuadé que ça peut vous plaire.
C'est-à-dire, je manque au monde. Le monde m'attendait. C'est un peu ce qu'on dit aux gens quand on arrive avec vous attendiez ça. Et les gens peuvent vous dire oui, peuvent vous dire non, mais le risque est pris. C'est aussi un risque. Il y a une beauté du geste aussi dans le risque qui est pris de présenter ce qu'on fait. Donc l'isolationnisme créatif, très peu pour moi. Mais après, quand si c'est pour arriver à écrire...
Ah, mais il y a quelque chose de beau dans ce côté moine de littérature, oui, à la fois triste aussi, éventuellement, mais...
Oui, mais de toute façon, c'est aussi déterminé par l'époque aussi. Vous prenez le parcours, moi, une des poétesses qui m'a le plus marqué, c'est Marina Tsvetaeva, une russe. Bon, ce parcours de vie est absolument... ahurissant et pas enviable une seconde. Et ça a produit les circonstances dans lesquelles elle a produit la poésie. On s'en doute joué pour arriver à cette incandescence, en fait. Mais à aucun moment, on ne peut envier d'avoir des vies aussi fracturées et aussi dramatiques.
Et alors, vous qui êtes mobile pour écrire les poèmes, est-ce que vous avez un carnet dans la poche avec un stylo, ou est-ce qu'il faut que vous soyez à votre bureau devant un ordinateur, cric-crac, comment ça se passe?
Non, moi je suis là aussi mobile.
Donc vous avez le carnet?
J'ai le carnet.
Vous l'avez là?
Je l'ai oublié aujourd'hui. j'ai oublié dans le train tout à l'heure, j'avais des feuilles volantes et un stylo, mais c'est plus de cet ordre-là. J'aime l'idée même d'écrire dans des bars. J'aime bien l'idée que ce soit des chansons ou des poèmes d'ailleurs. Hein. D'écrire en tout cas, et des fois ça produit des trucs, c'est-à-dire que c'est comme si l'extérieur venait vous nourrir,
alimenter.
Et en tout cas, ça n'est en aucun cas c'est assez plaisant de finalement s'isoler, s'extraire au milieu du bruit. Bah, non, évidemment, si vous n'avez pas la cumbia au-dessus de votre tête, hein, mais vraiment cette idée de parvenir à se concentrer et finalement être poreux malgré tout. Et ça, j'adore.
Seul dans la foule, quoi.
Voilà.
Merci beaucoup, merci Dominika. On vous laisse dans la foule.
Ouais, mais je vais
pour écrire, justement.
Avoir le temps de surtout dévaliser la librairie, mais non, je crois pas.
Merci beaucoup. Et merci à la librairie Comme un roman, rue de Bretagne, à Paris. Merci beaucoup.
Et je rappelle, Dominique A publie un recueil de poèmes sous le nom de Dominique Année. Ça s'appelle Le présent impossible. Dans un instant, lu et approuvé plein d'idées avec Stan le libraire, Hello pour la littérature jeunesse et Seb à la BD. Et oui, chacun a son diminutif, c'est comme ça. À tout de suite.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est libre avec Héloïse Goy pour la littérature jeunesse, Sébastien Bordenave pour la bande dessinée. Et notre libraire de la semaine, c'est le géant, le taulier. Vous avez reconnu Stan, Stanislas Rigaud, librairie Lamartine à Paris. Bonjour à tous les trois.
Bonjour Nicolas.
Bonjour, bonjour Nicolas.
On commence avec vous, Stan. Un roman ?
Oui, gros coup de cœur avec ce livre qui m'accompagne depuis de nombreuses semaines maintenant parce que j'avais eu la chance de découvrir très tôt avant la rentrée littéraire. C'est Pierre Adrian, Que reviennent ceux qui sont loin, aux éditions Gallimard. Alors, sur la ligne de départ, c'est un peu l'anti-livre de rentrée. C'est-à-dire que c'est un petit livre, alors que bon, on aime bien les trucs un peu charpentés à la rentrée.
Ouais, ça fait 180 pages à peu près.
Voilà. Un sujet qui, de prime abord, c'est l'histoire d'un narrateur qui revient passer ses vacances du mois d'août dans la maison de famille, qui est la maison de ma grand-mère, en front de mer, en Bretagne. Mmh. Bon, ok, vous allez me dire, c'est pas très excitant, c'est pas faux. si ce n'est que tout ça réuni, c'est un des plus beaux livres de cette rentrée littéraire, à mon humble avis. Car c'est servi par la plume, la finesse et l'émotion de Pierre Adrian qui m'a vraiment bluffé. C'est un livre qui prend beaucoup. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on transmet beaucoup. Les gens reviennent assez enchantés sur cet ouvrage. Je crois beaucoup à la suite, notamment pour la fin d'année. Parce que pourquoi ? Parce que ce narrateur qui revient donc dans la grande maison, la maison de famille, en fait, essaye de recoller à l'ordinaire du mois d'août de cette famille, c'est-à-dire des gens qui vont, qui viennent, des oncles, des tantes, des cousins, qui prennent une chambre, qui s'installent, il y a des draps, on fait la bouffe en commun, on va à la plage ensemble ou pas, on va au bar ensemble. Voilà, il a beaucoup aimé ça, il est parti vers d'autres lieux, il est revenu, il n'y a pas de secret de famille, hein, c'est juste qu'il est parti, il est revenu, et il regarde ça avec émotion, parce qu'il il est content de revenir, et en même temps, avec une mélancolie qui s'infiltre progressivement sur le fait qu'il ne peut pas revenir dans cet état il a grandi. Et sur cet interstice, en fait, Pierre Adrian construit un roman magnifique qui est à la fois extrêmement précis, la Bretagne, les vacances, le narrateur, sans doute peut-être même l'auteur, sur ça, et en même temps totalement universel. Moi, je me suis retrouvé totalement là-dedans. Le questionnement de la famille, son fonctionnement un petit peu en pilotage automatique, et en même temps qu'on a du mal à ne pas aimer à un moment ou un autre, ces gens qui parfois semblent étrangers, et ce mois d'août, comme il dit en ouverture du livre, qui est le mois qui ressemble le plus à la vie.
Et alors, on ne peut pas raconter, mais il y a un moment aux trois quarts du livre où il nous cueille, on ne dit rien de plus, mais ce n'est pas ce qu'on vient de dire, c'est encore un cran au-dessus.
Voilà, c'est tout ça. Alors, à l'heure où on se parle, il est sur le listing du prix de l'Académie française et
Interallié aussi, je crois.
Interallié aussi. Voilà. Pourquoi ? Parce que tout ça est servi par une langue. J'ai énormément aimé son style, c'est-à-dire qu'il est à la fois extrêmement ramassé et qui est d'une vraie beauté. Je trouve qu'il a la manière dont il insuffle cette nostalgie, cette distance et cette réflexion sur l'âge qui passe. C'est assez remarquable, avec une grande économie de moyens. C'est-à-dire que le livre n'est pas trop petit, il est exactement la taille où il faut, et surtout, c'est jamais délayé, en fait.
Que reviennent ceux qui sont loin, Pierre Adrian, chez Gallimard. Héloïse Goy.
Oui.
Jeunesse.
Oui.
Encore.
Oui. Toujours. Aujourd'hui, je vous parle d'une saga qui cartonne en librairie. Déjà 12 000 lecteurs au compteur. Ça s'appelle Corba. C'est écrit par Rémi Faure, qui par ailleurs est directeur des programmes hors fiction de TF1.
Attends.
Vous avez l'info. Et là, on est déjà au tome 3 de Corba avec La guerre de l'eau. C'est
et
le
non
titre.
Pas Cobra.
Eh non.
Je fais la même réflexion.
Oui. Ah oui, se méfier, parce qu'après, il y a des gens qui vont aller dire au libraire, est-ce que vous avez Cobra ?
Mais non, c'est Corba. Exactement. Alors, petite session de rattrapage pour ceux qui ne connaissent pas ces livres. Aden est un petit garçon très sensible à la mémoire incroyable et il est ami avec Jeanne, Isla et Jacob. Les quatre sont orphelins et ils vivent sur la toute petite île de Miette, en plein milieu de la mer de Corba. Ça irait plutôt bien pour eux si leur ami Gaspard n'avait pas disparu. Pour le retrouver, les amis vont affronter tous les dangers, comme un dragon qui transforme les enfants en stupides petits fantômes. C'est mignon, non ?
Très
Ça, c'était pour les tomes précédents. Et là, les enfants sont confrontés à un tout autre problème, la sécheresse. La population est assoiffée. C'est l'occasion pour l'auteur de sensibiliser les jeunes à l'urgence écologique. Et pour venir en aide à des étoiles en détresse, nos petits héros vont devoir gérer des questions de magie, d'amour, d'amitié. Je ne rentre pas dans les détails parce que cette saga fantastique est très dense.
Et c'est pour quel âge ?
De 9 à 12 ans. D'accord. Mais ce qu'il y a de très intéressant avec Korba, c'est l'histoire autour des livres. La jeunesse de cette saga est particulièrement jolie puisque tout part d'un petit garçon malade. L'auteur Rémi Faure vous explique.
C'est une histoire que j'ai inventée au départ pour mon petit garçon qui s'appelle Anton. Anton, il a eu une enfance un peu compliquée parce qu'il est né avec une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Pierre Robin, qu'il a conduit à l'hôpital pas mal de fois. Donc il fallait qu'on s'invente autre chose. Donc on s'était dit que cet hôpital, ce Necker à Paris, c'était un paquebot, un bateau. Donc on partait en croisière, quoi. On descendait en bas le long du paquebot. Il y avait une petite barque qui nous attendait. C'est comme ça que l'aventure a commencé, quoi.
Au fil des années, la saga s'est étoffée, notamment grâce à l'imagination débordante d'Anton.
Anton, il est autiste, Asperger, en plus, et donc le meilleur terrain de jeu, c'est d'aller dans son monde à lui. C'est vrai que c'est une histoire sur laquelle il était très actif. D'abord, il a une mémoire extraordinaire, et donc il se souvenait de petits cailloux qu'on avait semés en route, qui pourraient nous resservir plus tard. Par ailleurs, avoir un enfant en direct qui réagit à une histoire qu'on invente, ça change énormément l'histoire, en fait. Ça permet de voir tout de suite le bon dosage entre des séquences un peu d'émotion un peu plus lentes, et puis des séquences où il faut remettre un peu de rythme et un peu d'action.
Sachez que le tome 1 de Korba est disponible en version audio sur Audible. Il est lu par la chanteuse et comédienne Louane. Korba, la guerre de l'eau, c'est de Rémi Faure et c'est aux éditions Les Arènes.
Parfait. Korba, donc, je récapitule. Et que reviennent ceux qui sont loin, Pierre Adrien, ça c'était Stan tout à l'heure. Et voilà Sébastien Bordenave avec deux jolis livres pastel et rose.
Deux BD super belles, super bien dessinées, une avec des couleur super chaude et l'autre elle est en noir et blanc. La première c'est Mon ami Pierrot, publié chez Glénat de Jim Bishop, un dessinateur qui vient de la Seine-Saint-Denis, n'ayez pas peur Nicolas. Ce qui frappe tout de suite...
C'est Jean Lévesque, Jim Bishop.
C'est-à-dire ?
Bah, Jim Bishop, la traduction c'est Jean Lévesque.
Oui, bien vu, exactement. Ce qui frappe tout de suite dans cette BD, c'est la beauté du graphisme, des dessins enchanteurs au service d'une histoire onirique dans un univers de fêtes, de fées, de magiciens, de créatures en tout genre. J'avoue que les toutes premières pages, j'ai cru une BD un peu gentillette, pour pas dire pire, mais assez rapidement, on se laisse envoûter par les dessins et par l'histoire, car ce qui fait office de prince charmant s'avère être en fait, un authentique pervers narcissique. L'histoire, ça vous plaît.
Ça rend la chose intéressante.
L'histoire, c'est celle de Cléa de Ignis, une jolie jeune fille qui aime danser, mais qu'on veut marier à Berthier, un garçon au demeurant sympathique, mais un tantinet ennuyeux. Arrive Pierrot, un charismatique magicien qui va kidnapper Cléa grâce à un gros hibou à tête de chat. Je vous jure que j'étais dans un état normal quand j'ai lu la BD. Et ce qui est génial dans cet ouvrage, c'est qu'on retrouve l'ambiance des contes fantastiques de notre enfance tout en les projetant dans des thématiques actuelles comme les emprises narcissiques et les manipulations toxiques dans les relations hommes-femmes. Ça s'appelle Mon ami Pierrot, c'est sublime, c'est intelligent, c'est publié chez Glénat et c'est de Jim Bishop.
Parfait.
Voilà.
Et la deuxième ?
La deuxième BD, même punition,
en noir et blanc,
du sublime, mais en noir et blanc. Nous sommes là au XVIe siècle, dans la haute société hollandaise. Amélie est mariée à Hans Aldebert, un marchand qui a fait fortune. Et
Hans Aldebert. On l'appelle Hans Hall.
Hans Hall, exactement, quand on est copain avec lui. Et gérer la maisonnée pour Amélie, ça lui prend du temps, alors qu'elle, elle ne jure que par la lecture et la contemplation du soleil. Il y a des petites tensions dans le couple quand Amélie dit « Je suis votre femme, pas votre servante. » Hans répond « Moi, votre mari, pas votre banquier. » Paf ! Heureusement, Hans va partir pour affaires pendant quelques mois. Amélie en profite pour construire de petits jouets qui volent. Au XVIe siècle, on est à la limite de la sorcellerie. Puis Hans va revenir, pas les mains vides, avec de la muscade, du poivre d'Orient et une nouvelle esclave. Une femme d'Orient d'une beauté absolue. Alors qu'est-ce qui va naître de cette triplette ? Une tension destructrice entre les deux rivales ou une troublante sororité ? La BD a toutes les qualités, narrative, esthétique, émotionnelle. Elle est dessinée par Yudori, une dessinatrice coréenne qui, si j'en crois son Instagram, ressemble étrangement à la très jolie femme d'Orient de l'histoire. Bref, un petit bijou graphique publié par Delcourt qui s'appelle Le ciel pour conquête.
Des grands formats tous les deux. Et Mon ami Pierrot, Jim Bishop et Loïs Gua.
Korba de Rémi Faure aux Arènes.
Et Stan ?
Pierre Adrien, que reviennent ceux qui sont loin.
C'est parfait.
C'est Gallimard.
Merci beaucoup à tous les trois. Et je rappelle le titre du roman de notre invité, Par-delà l'attente, signé Julia Minkowski, c'est chez Lattès. Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission, Grégory Delpech pour la programmation musicale et à la réalisation, Boris Paczynski, bien entendu, l'homme
au doigt de fée.
Voilà, à la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.